VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Ici à Dakar, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes en Afrique. Les États-Unis disent avoir tué 40 islamistes en Somalie en 4 jours. C'est à la suite de 5 frappes aériennes qui ont visé en priorité les Shebab, les djihadistes somaliens affiliés à Al-Qaïda. Claire Morin-Gibault.
3 de ces frappes ont déjà été annoncées dimanche par AFRICOM, le commandement militaire américain chargé de l'Afrique, mais sans précision. Lors d'une conférence de presse hier, le colonel Rob Manning, porte-parole du Pentagone, a précisé que 36 islamistes Shebab et 4 combattants du groupe État islamique ont été tués. Les 5 frappes ont eu lieu au sud et à l'ouest de Mogadiscio, la capitale, et dans la région de Chabelle. Les États-Unis ont mené des frappes en Somalie pour la première fois début novembre. Le président Donald Trump a donné son feu vert au Pentagone en mars dernier pour lancer des opérations antiterroristes par voie aérienne ou terrestre pour soutenir le gouvernement somalien. Les Shebab tentent depuis 2007 de renverser les autorités de Mogadiscio et ont proclamé leur allégeance à Al-Qaïda en 2010. Certains des islamistes Shebab ont récemment rejoint les rangs du groupe État islamique.
Sénégal, la 4e édition du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique s'est tenue hier à Dakar. Le président sénégalais Macky Sall y a déclaré que les interventions internationales doivent être adaptées aux réalités locales. Et la ministre française des Armées, Florence Parly, a réitéré le soutien de la France à la force anti-djihadiste conjointe du G5 Sahel. Idriss Fall a joint à Dakar Bakary Sam, directeur de Timbuktu Institute, spécialiste du terrorisme en Afrique de l'Ouest.
Au regard de la situation sécuritaire qui se détériore de jour en jour dans la région, il faut une coopération régionale la plus élargie possible. Le Sénégal évolue en dehors du G5 Sahel, mais aujourd'hui fait partie des pays qui sont les plus contributeurs pour les forces militaires africaines présentes au Mali. Je crois que le G5 Sahel est un cadre performant qui commence à travailler, mais auquel il manque des moyens, ce qui nous renvoie à l'éternelle situation de pays africains complètement dépendants des pays occidentaux pour leur défense, et pourtant ces mêmes pays avait refusé l'AFRICOM dans les années 2008 et aujourd'hui on est revenu aux mêmes options militaires qui consistent à faire appel à des puissances étrangères.
Le Niger vient d'autoriser d'ailleurs les Américains à opérer des drones armés. Est-ce que ce n'est pas aussi une preuve que les armées africaines, particulièrement en Afrique de l'Ouest, ne sont pas assez fortes ou pas assez formées pour lutter contre le terrorisme?
Aucune armée du monde n'est formée pour lutter contre ces forces-là et pour mener cette guerre asymétrique où il n'y a ni ennemi visible, ni front déterminé. Au-delà de cela, la crainte sur le continent, c'est la surmilitarisation à outrance de nos régions qui pourrait être contre-productive par rapport aux objectifs initiaux, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme. Les interventions militaires n'ont jamais pu régler la question du terrorisme. Je pense qu'il faut des solutions structurelles à la base, des solutions prenant le problème à la racine, avec la bonne gouvernance, de l'éducation et de la prévention. Il s'agit d'une bataille idéologique et dans l'histoire du monde, on n'a jamais vu une Kalachnikov battre ou vaincre une idéologie.
Bakary Sam, directeur du Timbuktu Institute et spécialiste du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Violence en RCA, le département des opérations de la paix de l'ONU a ouvert une enquête sur de possibles défaillances des casques bleus de la MINUSCA, la mission onusienne en Centrafrique. Les enquêteurs examineront des attaques menées contre des civils par des groupes armés dans des lieux proches d'une présence de la MINUSCA. C'est notamment le cas dans les préfectures de Haute-Koto, Basse-Koto, Mbomou et Ombomou. Le général béninois à la retraite, Fernand Marcel Amoussou, dirigera cette enquête spéciale indépendante sur des événements survenus entre le 1er mai et le 31 août 2017.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, polémique autour de la délocalisation à Machu Picchu du quartier général de la police de Lubumbashi, la grande métropole du sud-est du pays. Machu Picchu connaît des manifestations à répétition contre le président Joseph Kabila. Et depuis l'annonce du transfert par le commissaire provincial de la police du Haut-Katanga, le général Paulin Kiungu Banza, les avis sont partagés avec des pour et des contre, comme l'explique notre correspondant sur place, Narval Mabila.
Insécurité, banditisme, manifestation contre les régimes, éternel quotidien des habitants du quartier Machu Picchu. Pour faire face à cette situation, le commissariat provincial du Haut-Katanga a installé son quartier général dans le quartier Machu Picchu. Selon le général Paulin Kyungu Banza, c'est une mise en guerre très sévère envers les bandits et les inciviques. À la population, on a mis la paix de collaborer avec la police d'Ixit. Le bourgmestre de la commune de Lubumbashi, qui a la gestion d'une partie du quartier Machu Picchu, appuie cette décision. Gustave Ngoy s'explique.
Il y avait des inciviques qui voulaient troubler à chaque instant l'ordre public au niveau des Machu Picchu. En fait, la police a pris quand même ses responsabilités. C'est pour l'intérêt public. Il a pris au commissaire général de la police de déplacer son cabinet ou son quiche et le déposer au niveau des Machu Picchu pour sécuriser la population et leurs biens.
Du côté de la société civile du Haut-Katanga, l'inquiétude est grande face à l'installation du quartier général au quartier Machu Picchu, comme s'exprime Maître Kaloa, coordonnateur.
Cela prouve à suffisance qu'il n'y a pas une bonne collaboration entre la police ainsi que la population. Le fait d'avoir ce QG suscite toujours des inquiétudes au sein de la population que nous représentons. Voilà pourquoi nous demanderons qu'on envisage une autre politique, parce que chaque fois, à chaque instant, il y a toujours de mouvements qui entraînent certaines paniques dans le chef de la population.
Dans les rues du quartier Machu Picchu, la méfiance est totale face à l'installation du quartier général de la police. Comme certains s'expriment à notre micro sous anonymat, pour raison de sécurité.
Je suis content du fait que la place sur qui j'ai ici, ça va quand même nous soulager des abus des policiers. Faire du désordre ici, soi-disant les membres de l'IDPS, ce ne sont pas les résidents de ces quartiers, ce sont des gens qui viennent d'ailleurs.
Ne pas faire les manifestations inutiles par rapport à brûler les pinets et tout comme ça. Maintenant, et il vient ici pour commencer à taper les gens, gifler les gens. Il fait que c'est seulement à 19h, tu essaies un peu de passer de l'autre côté du Machu Picchu ici, même à l'arrêt, même sur les nourris ici, on gifle les gens.
Ici à Machu Picchu, les habitants compriment leur colère devant les bouts de canaux des forces de sécurité. Lubumbashi, quartier Machu Picchu, Narval Mabila, VO Afrique.
Et on essaie toujours des contradictions sur la panne d'eau et le courant électrique qui a frappé Kisangani, la grande métropole du nord-est du pays. Le patron de la nationale de l'électricité, Alea Tundu, a affirmé que le président Joseph Kabila a fait prendre des mesures face aux risques sanitaires et sécuritaires. Et Jean-Bosco Kayombo, numéro 2 de la Société Nationale d'Électricité, a ajouté que les habitants ont partiellement de l'électricité parce que les groupes électrogènes ont été activés pour alimenter certains points stratégiques de Kisangani. Toutefois, sur le terrain, des habitants se plaignent de pénurie. La société civile a donné 48 heures à la société d'électricité pour fixer l'opinion sur le rétablissement du courant électrique. Rappelons que la crue du fleuve Congo, entraînant l'inondation d'une centrale électrique, a privé de courant les habitants de Kisangani. Crise politique au Zimbabwe maintenant, mise en garde sans précédent du chef de l'armée au parti du président Robert Mugabe. Le général Constantino Chiwanga a dénoncé l'éviction du vice-président Emerson Mnangagwa. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Le général Constantino Chiwanga a averti le parti au pouvoir, la ZANU-PF, que l'armée pourrait intervenir si ce qu'il considère comme une purge ne cessait pas. La purge actuelle qui vise clairement les membres du parti qui ont été engagés dans la guerre d'indépendance doit cesser immédiatement, a indiqué le chef de l'armée dans un communiqué lu en présence de 90 hauts gradés. Emerson Mnangagwa, longtemps présenté comme dauphin du président Robert Mugabe, a été démis de ses fonctions de vice-président la semaine dernière, après un bras de fer avec la première dame Grace Mugabe. Il s'est enfui en Afrique du Sud. Ce départ forcé a fait éclater au grand jour les rivalités au sein du parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1980. Chez Mnangagwa, qui a reçu le soutien des anciens combattants de la guerre d'indépendance, entretient des liens étroits avec les militaires.
Ici aux États-Unis, Jeff Sessions, de nouveau devant le Congrès, le ministre de la Justice va être interrogé aujourd'hui sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016. Il avait soutenu la candidature du président Donald Trump alors qu'il était encore sénateur de l'Alabama. Monsieur Sessions devra s'expliquer sur ses relations avec George Papadopoulos, un conseiller de la campagne du milliardaire républicain qui a plaidé coupable d'avoir menti aux enquêteurs de la police fédérale, le FBI. Jeff, lors de son édition de confirmation au Sénat, Jeff Sessions avait affirmé n'avoir eu aucun contact avec des responsables russes durant la campagne présidentielle. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.